dans la continuité des précédentes prédications sur grandir, grandir dans notre relation avec le Seigneur. Parce que le Nouveau Testament, il nous parle de la croissance du chrétien. Et cette croissance, elle ne se fait que dans une seule direction, parce que notre destinée, c'est d'être à l'image du Fils de Dieu. Que veut dire être à l'image du Christ ? Qui sommes-nous en Christ ? C'est la question que je nous pose ce matin. Qui sommes-nous en Christ ? Alors, dès la Genèse, on peut lire que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Et ça, je trouve ça super. C'est une bonne nouvelle d'être créé à l'image de Dieu. C'est énorme. Puis on voit dans la Bible que Dieu, dans sa nature, il est saint, il est bon, il est fidèle, il est lumière, il est unité. Mais donc, c'est simple. Donc moi, je suis bon, je suis saint, je suis fidèle, lumière, unité. Oui, ben en fait, non, c'est pas un scoop. Les humains, et moi-même y compris, nous ne sommes ni saints, ni entièrement bons, ni d'une lumière resplendissante. Nous sommes infidèles, et honnêtement, ben, ça serait mentir qu'on recherche toujours l'unité. Alors comment ça se fait ? Est-ce que Dieu se tromperait-il sur nous ? Est-ce qu'il se tromperait sur vous ? Est-ce qu'il se tromperait sur moi ? J'ai oublié un petit détail. C'est vrai qu'il y a un petit truc qu'on appelle le péché qui est passé par là, depuis la Genèse. Personne ne peut le nier. Le péché a tendance à nous éloigner largement de ce que nous étions dès le début, parfaitement, de la création, des hommes et des femmes qui sont dans leur nature à l'image de Dieu. Un jour, dans une réunion de prière, quelqu'un a prié pour moi, et je ne sais plus dans quel contexte, si c'était direct ou pas, mais il m'a dit, je me souviens de ce qu'il m'a dit, il m'a dit « Vincent, il est temps d'arrêter de te regarder dans le miroir. » Parce que ce miroir, il renvoie de toi une image qui n'est pas la bonne. Cette image, elle est corrompue. Et Dieu, il ne te voit pas comme ça, donc arrête ça. Alors ça m'a touché sur le moment, et un peu, et puis après j'ai oublié, donc je suis désolé pour cette personne si elle se reconnaît. Mais vous savez comment c'est avec le Seigneur, vous savez comment c'est avec Jésus. S'il a quelque chose qu'il veut vraiment nous dire, eh ben, il va se débrouiller pour que le message y passe. Et du coup, quelques mois après, j'avais vraiment oublié, et quelques mois après, une autre personne est venue me voir et m'a dit, une personne différente, « Vincent, j'ai reçu une parole pour toi, il faut que tu brises le miroir. » Et là, j'ai dit, « Ok, c'est bon, j'ai compris. » Et j'ai compris que le péché, il agissait comme une déformation du miroir. C'est comme un voile, comme un leurre. Ça obture ce que nous sommes réellement. Alors oui, c'est vrai, il y a un décalage énorme entre ce que nous étions en jeunesse par nature, dès la création, et la réalité de ce que nous sommes aujourd'hui. L'image a été déformée. Mais, bonne nouvelle, ce qu'on va voir ce matin, elle sera reconstruite par le Saint-Esprit tout au long de notre marche avec Jésus. Alors, partant de ce constat de décalage, il y a deux manières d'aborder la question de notre identité en Christ. Soit on parle de tout ce qui n'est plus à l'image de Dieu en nous, et là, on va passer des heures de déprime. Soit on parle de ce que Dieu dit de nous malgré le péché, ce que Dieu dit de nous malgré le péché. Alors rassurez-vous, pour ce matin, j'ai choisi la deuxième option. Jésus dit beaucoup de choses pour nous dans sa parole, et il dit notamment des hommes et des femmes qui le suivent que nous sommes de nouvelles créatures. Toute notre vie de chrétien, de chrétienne, c'est un long chemin vers ce que nous sommes déjà en lui. En fait, c'est un chemin vers la pleine réalisation de ce que nous sommes déjà réellement en lui. C'est un peu, l'image que j'ai, c'est un peu comme une énorme toile de peinture, une fresque que l'on va découvrir petit à petit, qui va se révéler petit à petit, qu'on approfondit notre relation dans le Seigneur. Ce matin, Fred, il a résumé les paroles en disant que Jésus a les couleurs de la vie. Ben ouais, ce matin, on va voir que Jésus, il a les couleurs de nos vies. Voilà, peut-être que ce qu'on est déjà en lui, c'est plus ou moins caché, voilé par tout un tas de choses. C'est vrai qu'on appelle le péché, la chair, le malin, mais on a quelque chose à découvrir chacun en Christ. Et malheureusement, je ne peux pas vous dire ce que vous êtes, vous. Je ne sais pas, seul Dieu sait qui vous êtes réellement, lui. Mais ce que je peux vous proposer, c'est ce qu'on va faire, c'est d'utiliser trois images bibliques qu'on va utiliser comme des révélateurs, trois révélateurs, pour en savoir un peu plus. On va commencer par, si tu peux mettre, des vases. 2 Corinthiens 4:7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Ces versets, ils parlent de trésors, de vases et de pression. Alors vous avez compris, les vases, c'est nous. Et le texte, il nous dit que nous sommes en argile, en terre. Et ouais, malheureusement, on n'est pas en or. On aimerait bien, mais on est des vases de terre fragiles. C'est ce que Jérémie nous a invité à faire ce matin, c'est un peu reconnaître cette fragilité avec ce temps de repentance et de confession. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'argile, il est malléable. Par rapport à un métal, il va être malléable. Il n'est pas figé. Donc l'argile, il peut être transformé, changé, façonné. Et c'est une des premières clés de notre identité, c'est que nous sommes l'ouvrage vivant de Dieu. L'ouvrage vivant de Dieu. Ensuite, le trésor dans ces vases, c'est la présence de Dieu en nous. Et ouais, encore une fois, on n'est pas des vases d'or. Donc notre valeur, elle ne vient pas de l'extérieur, elle ne vient pas de notre apparence, mais elle vient bien de la vie de Jésus de chacun en nous. Ma propre valeur, elle ne vient pas des choses matérielles de ma vie, mes revenus, ma maison, tout confort, ma belle voiture de sport, mon corps d'athlète. Tout cela ne me définit pas. Bon, pour le corps d'athlète, vous pourriez peut-être objecter, mais non, c'est pas. Mais passons. En fait, arrêtons d'essayer de briller en société. C'est une fatigue inutile. La parole nous dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, trésor, vase, et je vous ai dit pression. Et ouais, il y a une pression. La pression, c'est le monde, c'est le malin, la chair. On est dans notre identité pressée de toutes parts. Et là encore, ça serait bien plus simple si on était des vases bien solides dans un métal inoxydable comme l'or. Mais non, on est d'argile pour une raison simple. C'est parce que nous sommes dépendants des mains de Dieu à chaque instant de notre existence. Nous avons besoin des mains bienveillantes du potier sur nos vies. Ça, c'est une réalité. Et notre vulnérabilité, notre fragilité, c'est une force. Quand on est faible en nous-mêmes, nous sommes forts en lui. Et pour finir avec cette image du vase, un vase, il a une utilité quand même. Il ne faut pas l'oublier. Parce qu'un vase, c'est un contenant. Et sa finalité, c'est de recevoir, de garder et de tenir à disposition un contenu. Et il me semble qu'en tant que vase, un des piliers de notre identité en Christ, c'est bien de recevoir avec humilité, de garder avec humilité et de tenir à disposition la parole devenue chair. Ça, c'était pour l'image des vases. Ensuite, un deuxième révélateur, c'est que nous sommes, ça va s'afficher, des temples. 1 Corinthiens 3:16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc là, on apprend que, de la bouche de Paul, on apprend qu'on est des temples et que l'Esprit de Dieu habite en nous et qu'on est saint. Je pense qu'on serait naïf de penser que cet Esprit de Dieu, il se contente d'habiter en nous calmement, posément, doucement, passivement. Non, non, certainement pas. L'Esprit de Dieu, il est actif en nous et nous transforme. Le problème, c'est que cette transformation, on veut tous s'améliorer. On veut tous changer ce qu'on trouve qui ne va pas en nous. Mais cette transformation, on veut la conduire nous-mêmes. On veut le faire comme le monde nous l'enseigne, de l'extérieur vers l'intérieur. En fait, ça ne se passe pas comme ça. Là, avec la présence de Dieu en nous, son esprit, la transformation, elle se fait de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une clé aussi. Après, elle peut être plus ou moins rapide, plus ou moins aisée selon notre niveau de relation. Et c'est encore ce que disait William sur grandir. Dieu, il nous aime inconditionnellement, mais si nous développons cette relation d'amour, alors la transformation, elle se fera. Alors, je pointe personne hein, quand je dis que ça peut être plus ou moins rapide, parce que moi, je me considère moi-même comme un escargot dans la course à la transformation. Éphésiens 3.16 nous dit, la parole nous dit dans Éphésiens 3.16, « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ça veut dire que c'est inutile de chercher à nous transformer nous-mêmes, à nous améliorer nous-mêmes. Aujourd'hui, je suis un peu touché par ça. Je trouve que les conseils en développement ont la part belle sur Internet. Les coachs de vie pullulent, les coachs de vie. On peut observer que l'homme moderne, il cherche à se bâtir et à s'élever lui-même, toujours de l'extérieur, de son extérieur visible, ses possessions, à quoi il ressemble, ses réussites, à son intérieur caché. Toujours par ses propres forces, en vue de ressembler à un idéal mondain, l'idéal du monde. C'est vrai, franchement, il faut être honnête, on cherche quand même un peu à se bâtir une image conforme à ce que le monde attend de nous. La performance, la réussite, l'influence, le pouvoir. Tout ça, pour le monde, c'est normal de le rechercher. La plus grosse maison, la plus belle voiture, les plus belles conquêtes. Et une petite aparté, je trouve qu'on vit un truc un peu spécial. On a sur les réseaux sociaux des influenceurs et des influenceuses. Qu'est-ce que tu fais, chérie, sur ton téléphone ? Je regarde un influenceur. Ah, ok, tu regardes quelqu'un t'influencer dans le but d'acheter des produits ? Oui, c'est ça, exactement, c'est ce que je fais. Bah, c'est normal. Enfin, bref, sur les réseaux, si vous voulez, vous pouvez regarder des vidéos de personnes en train de déballer des produits en tout genre, en faisant « waouh » toutes les 30 secondes. Vous pouvez avoir des conseils, des gens qui vous donnent des conseils d'investissement financier depuis Dubaï, puis après on apprend que c'était des escrocs. On vous parle de relations hommes-femmes. Et je suis sûr que certains peuvent s'identifier à ces influenceurs, ces influenceuses. Et je trouve ça, moi, un peu absurde. Voilà. Même si l'identification se fait à des niveaux plus ou moins légers, on peut regarder ça de façon légère, mais quand même, c'est un peu symptomatique de notre monde d'aujourd'hui, que ça puisse exister. Alors, sur qui bâtir mon image, mon identité ? Le psaume 127 nous dit « Mais si ce n'est l'Éternel qui bâtit, alors l'édifice est bâti en vain. » En vérité, par nous-mêmes, on peut à peine faire un ravalement de façade. C'est ça la vérité. Encore Jésus-Christ, voilà, et encore. C'est le seul qui peut nous édifier de l'intérieur, pour être un temple à sa gloire, visible de l'extérieur. Pour résumer grossièrement, l'adage du monde, c'est « mieux vaut faire envie que pitié ». Et l'adage de Christ, c'est « soumettez-vous les uns aux autres, comme moi je me suis soumis ». Voilà. Alors, c'est pas tout. On a vu aussi qu'on était saints. Le temple est déclaré saint et c'est ce que vous êtes. Comment c'est possible ? Comment je peux être déclaré saint par la parole de Dieu ? Comment c'est possible ? Alors, c'est possible grâce à quelque chose, une vérité qui s'appelle l'échange. Alors, je vais parler d'échange. L'échange, dans un échange, je reçois, mais en même temps, je donne aussi. C'est un échange. Alors, j'ai lu un bouquin d'un pasteur qui s'appelle Tozer, A.W. Tozer. C'est un pasteur américain, moitié du XXe siècle. Il a écrit un livre qui s'appelle « À la recherche de Dieu ». Les gens qui connaissent cet auteur reconnaissent que c'est quelqu'un qui, toute sa vie, a cherché profondément, sincèrement, la face de Dieu. C'est quelqu'un qui s'est mis à genoux devant Dieu toute sa vie et qui s'est profondément humilié, qui a vraiment fait une démarche sincère. Et il écrit ce bouquin à la recherche de Dieu. Il est vraiment bien, je vous conseille. Au bout de à peu près un quart du livre, peut-être avant, il dit, voilà, moi je ne vous force pas à continuer, mais si vraiment sincèrement vous êtes à la recherche de Dieu, alors, et que vous voulez continuer la lecture de ce livre, alors vous devez faire quelque chose. Vous devez sincèrement renoncer à toute possession. Renoncer à toute possession. Vous devez tout laisser à Dieu, tout dépouiller sincèrement, tout, tout, ne rien laisser. Ça m'a remué. Et dans un échange, on l'a dit, je reçois ou je donne. Je reçois, mais en échange, je donne. Et dans cet échange, la croix, mon Seigneur, il a échangé ma vie avec la sienne. À la croix, Jésus, il a échangé notre corps mourant avec un temple à la gloire du Père. Et ce temple est la demeure de son esprit. On est nombreux à connaître cette phrase même de la bouche de Jésus. « Prends ta croix et suis-moi. » C'est son appel. Je peux être déclaré saint par cette vérité de l'échange. Voilà. Mais par contre, il faut tout donner, il faut tout laisser. On est appelé dans notre identité à tout lui soumettre, à lui faire confiance en toute chose. On est encouragé à le laisser agir en nous pour nous renouveler et nous transformer. Et ensuite, j'avais dit qu'il y avait trois révélateurs, trois images. Et la dernière, c'est des ambassadeurs. 2 Corinthiens 5, versets 19 à 21. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voilà, c'est simple. Nous sommes qualifiés d'ambassadeurs, ambassadeurs pour Christ. La définition du Larousse d'ambassadeur, c'est représentant ou ambassadrice, c'est représentant permanent d'un État auprès d'un État étranger. Représentant permanent d'un État auprès d'un État étranger. Notre identité en Christ, on le sait, elle nous donne effectivement une citoyenneté particulière. Nous sommes citoyens du ciel. Nous sommes donc des ambassadeurs du ciel, ambassadeurs de Christ auprès du monde. Et ce qui est remarquable dans cette définition du Larousse, c'est le terme permanent. Nous représentons en permanence les intérêts et les valeurs du royaume de Dieu. Et ça, honnêtement, il faut le reconnaître, ça peut être un peu plus compliqué. Parce que parfois, certaines semaines, on est plutôt des ambassadeurs du dimanche. C'est-à-dire qu'on va limiter notre mandat d'ambassadeur de Christ au culte dominical de 10h à midi. Et peut-être que la reste de la semaine, on prendra un autre mandat. On peut limiter ce mandat suivant les personnes avec qui nous sommes ou le lieu dans lequel on est. On peut être chrétien dans notre famille, dans notre église, et être un peu moins chrétien sur notre lieu de travail, c'est vrai. On peut avoir en fait le mauvais réflexe de compartimenter nos vies. Je me suis beaucoup posé cette question. À quel moment je me dis, après tout, je suis dans le monde, donc je dois m'adapter. Dans le lieu dans lequel je vis, je dois m'adapter à la culture, aux valeurs, aux traditions, aux modes, aux préoccupations. Et à quel moment je dis, stop, là je ne suis plus d'accord, je ne peux plus continuer à accepter cela. Alors pour une fois, je vais vous proposer une réponse claire et encadrée. En fait, ce n'est pas une question d'adaptation, c'est une question de disposition de cœur. Être ambassadeur, c'est mettre la personne de Jésus au centre de nos vies entières, au centre de toutes nos activités, nos milieux, nos préoccupations, nos aspirations, nos choix, nos familles. 1 Corinthiens 10, verset 1 nous dit « Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » J'ai deux petites histoires, parce qu'on ne peut pas parler d'ambassadeur comme ça juste sans parler de nous, quoi. Voilà. Sans parler de vraie histoire. J'ai une petite histoire qui illustre pas bien ce que c'est d'être, ce que c'est dans le mauvais sens d'être ambassadeur. Rapidement, à l'époque, je faisais du foot. Bon, j'ai arrêté. Et j'étais au bord du terrain avec un homme assis à côté de moi. Et cet homme, son fils jouait, était en train de jouer. Moi, j'étais remplaçant, on était dehors au bord de la touche. Et c'était un match de foot, il y avait des jeunes d'ici, il y avait Francky, il y avait Joël, je ne sais plus qui d'autre. Et il y avait aussi, parmi les joueurs de foot, le fils donc, de cette personne à côté de moi. Il y avait son père. Et ce jeune homme avait été malade. En fait, c'était une des premières fois qu'il revenait jouer pendant un an et demi, il avait été absent, il avait eu une leucémie. Et je sais que ça avait interpellé les jeunes de notre assemblée, qui jouaient tous les dimanches avec lui. Et je dis à ce papa, je lui dis, écoute, on est trop content que ton fils soit guéri. Mais bon, je voulais te dire, on est croyants, on va à l'église, à Nîmes. Ces jeunes-là que tu vois, ils ont prié pour ton fils et nous, maintenant, on est super contents. Et ce papa, il n'a pas trop réagi. C'est juste à peine un hochement de tête. Puis le temps a passé et je vais à une réunion chez un frère de Nîmes. Et qui je vois sortir de chez lui ? Ce papa qui, quelques mois avant, était donc je le salue, puis il s'en va. Et mon frère, je lui dis, mais tu le connais, je fais du foot avec lui, je connais son fils, tout ça. Il dit, ouais, je le connais, il était dans mon ancienne église à Nîmes, ils vont à l'église à Nîmes, ils sont chrétiens. Et là, honnêtement, je n'ai pas compris pourquoi, quand je lui ai témoigné de, un peu de notre affection et de notre action de prière, pourquoi il a gardé sa foi sous silence. Honnêtement, je n'ai pas compris. Et je ne le juge pas, parce que des fois, on peut avoir des craintes, des peurs qui font que on va passer notre foi sous silence. Là, on passe en fait en mode espion. On n'est plus des ambassadeurs. On vit un peu caché. On défend les intérêts de notre pays, mais on le fait cacher, quoi. Voilà. Mais j'ai aussi une histoire, une vraie histoire qui illustre bien ce que c'est d'être un ambassadeur. Et voilà, on a ici dans l'assemblée un enseignant. Et cet enseignant, il avait dans sa classe une fille qui était pas bien. Une élève qui avait un mal-être profond avec des pensées suicidaires. Et un jour, il voit que cette fille n'est plus là. Elle a quitté la classe, elle a quitté l'école, elle a changé d'établissement. Et peu de temps après, il reçoit une lettre. Et c'est une lettre de cet élève qui lui a adressée à lui. Et dans cette lettre, elle lui dit, voilà, vous avez été mon professeur, mais vous avez été bien plus que ça. Vous avez été bienveillant et j'ai senti à votre façon de, on va dire, d'être et de vous adresser aux élèves et de vous adresser à moi, j'ai senti que j'étais précieux et que je comptais à vos yeux. Comme ça, noyé dans l'océan d'élèves, une élève dit ça de quelqu'un qui est dans notre assemblée. Et alors qu'il n'avait jamais témoigné de sa foi. Mais je trouve que c'est un bon témoignage d'être ambassadeur de Christ. C'est-à-dire que ça touche aussi à ce qui n'est pas visible. Ça touche aussi à ce qui ne se voit pas. Voilà. Éphésiens 5:8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Notre identité en Christ nous confère un mandat pour notre vie entière, celui d'être la lumière du monde. Et j'oublie un petit truc, c'est que cette jeune fille, excusez-moi, je reviens sur le témoignage, ce qui était assez important, c'était qu'à un moment donné, elle avait des pensées suicidaires et que c'était sa dernière bouée de sauvetage. Ça a vraiment compté pour sa vie concrètement. Voilà. Donc il ne faut pas sous-estimer ce qui ne se voit pas. Être ambassadeur de Christ, c'est tendre à incarner en toutes circonstances la vie de résurrection du Seigneur. Ce n'est pas toujours facile. Ce mandat, c'est celui de manifester en permanence l'amour de Dieu dans toutes les sphères de nos vies, même celles qui sont cachées ou invisibles. La lampe ne peut rester sous le boisseau. Voilà. Voilà ces trois révélateurs, ces trois images. Pour finir, un dernier verset que je trouve très important dans 2 Corinthiens 3:18. Nous tous qui reflétons à visage découvert, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Notre vraie image, réelle, notre fresque identitaire, ce que nous sommes, elle se révèle vers ça, et elle se révèle en contemplant la gloire du Fils. Pourquoi ? Parce que ça a été le premier vase de terre. C'est son corps humain, fragile, complètement homme, qui a été brisé, puis reconstruit en un vase glorieux. Quelle humilité! Nous sommes d'humbles vases en terre pour porter une précieuse bonne nouvelle. Ensuite, Jésus a dit « Détruisez ce temple et je reconstruirai en 3 jours ». Il s'est fait temple, il s'est fait lieu de rencontre, il s'est fait le lien, trait d'union entre le Père et son peuple, voilà, par l'Esprit. Il a pleinement glorifié le Père. Il s'est pleinement soumis dans l'amour. Donc nous, nous sommes des édifices, oui, saints et vivants pour sa gloire. Et ensuite, il est le Rédempteur. On l'a chanté ce matin. Le premier ambassadeur de la justice divine. C'est l'ambassadeur de l'amour de Dieu pour l'homme. Quelle grâce ! Et nous, nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes citoyens permanents, permanents d'un royaume juste et victorieux. Finalement, ces images ne font que rappeler la perfection de notre Seigneur Jésus. Que notre Seigneur est bon, juste et parfait. Puissions-nous toujours un peu plus lui ressembler. Je vais prier. Seigneur, merci parce que dans ta grâce infinie, tu es venu restaurer l'image de l'homme telle que le Père l'avait bâtie au début de la création. Nos miroirs, ils sont faussés par le péché, mais toi, dans ta perfection, tu nous façonnes avec amour afin que nous puissions, à notre tour, refléter ta gloire. Oui, Seigneur, nous voulons nous identifier à toi, dans ton humilité, ton amour, ta victoire, en permanence dans nos vies entières. Seigneur, nous t'aimons et nous sommes reconnaissants et nous sommes heureux et fiers de t'appartenir. Amen.